philosophie et ancien résident à l'Institut d'études avancées de Nantes. Il enseigne régulièrement à l'étranger, d'ailleurs quand j'ai contacté pour lui demander s'il acceptait de venir ce soir, nous nous sommes parlé alors qu'il était au Brésil. Ça a été une conversation un peu difficile, coupée à plusieurs reprises, et vous voyez, couronné de succès puisqu'il est là ce soir. Il va également enseigner en Colombie et au Mexique. Il collabore régulièrement à de nombreuses activités artistiques, littéraires, musique, théâtre, et il collabore au spectacle Blanc de Michel Schweitzer. Et son travail porte principalement sur les systèmes et les processus symboliques, et il se situe, vraiment très intéressant, à la frontière de la philosophie du langage, de la sémiologie, de la philosophie politique et de la psychanalyse. Ça aussi, c'est très intéressant pour le sujet qui nous occupe ce soir. Il a publié de très nombreux livres, et vous pouvez d'ailleurs en acquérir certains au fond de la salle. Je vous cite quelques titres, mais les derniers traitent tous du néolibéralisme et de ses effets sur les économies politiques, psychiques, d'où l'intérêt de la psychanalyse, et discursives. Dans les derniers titres, le docteur Mabuse et ses doubles, une histoire souterraine du capitalisme, le divin marché, baisse ton prochain, et le docteur Mabuse et ses doubles. Désolée. Et puis aussi, bien sûr, un livre dont il va certainement nous parler ce soir, La fable des abeilles de Bernard de Mandil, introduit par notre conférencier. Je vous laisse la parole avec le bon micro.
Merci beaucoup de votre invitation. J'ai donc intitulé mon exposé « Grandeur et décadence de l'utopie capitaliste ». Ça fait 3 siècles, si je compte bien, que le monde est lancé dans cette utopie. Et de plus en plus de voix, je crois que vous pouvez les entendre vraiment de plus en plus fortes, de plus en plus angoissées, inquiétées. De plus en plus de voix s'interrogent aujourd'hui sur ce que cette utopie nous réserve au juste. Dans le prochain. Je vais donc essayer de vous interroger sur les origines de ce système qui a d'une certaine façon si bien marché pendant 3 siècles. Je vais vous dire pourquoi je dis ça tout à l'heure. Avant donc de m'interroger sur les causes de son déclin. Pour savoir comment cela a commencé, il faut faire un bond. Vous m'entendez bien? Oui? Oui? Non? Alors je vais m'approcher. C'est mieux? Bon. Si je me laisse aller, vous me rappelez donc mon devoir. Donc, pour savoir comment cela a commencé, il faut faire un bond de 3 siècles en arrière, au moment de la première révolution industrielle anglaise. Et si on fait ce bond, alors on trouve un drôle de personnage, un penseur qui était alors très très célèbre, mais qui est aujourd'hui fort peu connu. Et c'est dommage parce que il peut nous expliquer beaucoup de choses sur la façon dont ce système s'est construit et s'est noué. Et donc c'est pour ça que je vais essayer de ressortir de l'oubli pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Ce personnage, il s'appelle Bernard de Mandeville. C'est un nom à la française, il est d'origine française. Ses dates de naissance et de mort, c'est 1670-1733. Donc on est vraiment au cœur de la révolution industrielle en Angleterre, où est né le capitalisme. C'est lui, à mon avis, qui est l'inventeur de ce système. Je dis l'inventeur comme on dit l'inventeur d'un trésor. Vous savez, quand on découvre un trésor, on dit c'est l'inventeur du trésor. C'est le découvreur du trésor. Donc il a découvert quelque chose sur ce qui s'était en train de se mettre en place sous ses yeux. Donc là. Je vais donc essayer de vous donner quelques éléments pour le présenter. Il est né à Rotterdam, dans un milieu protestant calviniste. Il suit des études de médecine et de philosophie à Leyde, toujours en Hollande. Puis il part s'installer à Londres en 1695, où il exerce comme, tenez-vous bien, médecin de l'âme. Qu'est-ce que c'est qu'un médecin de l'âme ? Ou médecin des passions de l'âme ? Un médecin des passions de l'âme, c'est quelqu'un qu'on appellerait aujourd'hui un psy. Voilà. De sorte que vers 1710, Mandeville est à peu près à Londres, ce que sera Freud à Vienne, 2 siècles plus tard.
Il reçoit donc des patients souffrant de ce qu'on appelait alors des maladies nerveuses. Il a une méthode qui expose longuement dans un traité. Il a écrit qui s'appelle le traité des passions hystériques et hypochondriaques. Je vous signale que passion, ça n'a pas du tout le terme actuel. J'ai vos passions, ce formidable, ces passions, etc. En fait, ce n'est pas ça du tout à l'origine, une passion. Passion, ça vient du mot grec pathos. Donc le pathos, ce n'est pas rigolo, hein, pathos, c'est pathologique. Hein. C'est quand ça va mal. Donc les passions, c'est ce qui est de l'ordre de ce qui vous fait souffrir, plutôt. Maintenant, on a transformé ça. Les passions, c'est beau, c'est gai, il faut vivre ses passions. En fait, bon. Ça vaudrait le coup de s'interroger aussi sur ce renversement. On verra plus tard. Donc, la méthode, il expose dans ce traité des passions, hystérique et hypochondriaque, 1711, dans lequel il recommande, donc 2 siècles avant Freud, de parler avec le patient. Il finit donc les saignées, comme les médecins de Molière, finit le microscope qui introduit des choses scientifiques, soi-disant scientifiques. Il faut d'abord parler. Et étrangement, il constate, il écrit un autre livre pour ça, que ses patients vont mieux, que ses patients vont mieux rien qu'en parlant. Pourquoi ? Eh bien parce que les carcans moraux qui pèsent sur eux, sur ses patients, s'allègent. Et ils ont tendance à moins se punir de leurs symptômes, donc ils leur font moins souffrir. Alors, Mandeville se demande alors si ces résultats individuels seraient transposables au collectif. Et pour répondre à cette question, il écrit en 1714 un texte qui est une fable animalière. Fable animalière à la façon des fables de La Fontaine, qui connaît bien La Fontaine, puisqu'il a traduit en 1705 une trentaine de ses fables en anglais. Il appelle ça la fable des abeilles. Et il écrit un autre traité de philosophie morale qu'il appelle « Recherche sur les origines de la vertu morale ». Vous allez voir qu'il a une drôle de conception de la vertu, mais ça on va voir bientôt. Eh bien, ces deux textes composent une très audacieuse utopie permettant de répondre à une question cruciale. Question cruciale de l'époque, donc 1714, comment sortir le monde de l'état de pénurie où il se trouve alors ? Cette situation de manque, de pénurie, est connue depuis au moins Thomas Hobbes, donc une cinquantaine, 60 ans avant, qui soutenait de philosophie politique fameuse, le Léviathan, 1651, que le manque de biens pour répondre aux besoins de la population provoquait la guerre de chacun contre chacun. On dispose aujourd'hui de données pour chiffrer cette pénurie. Je vous les rappelle parce qu'il faut quand même avoir ça en tête. Vers 1700, il y a environ 600 millions d'habitants dans le monde. Le revenu moyen par tête est environ, en euros constants bien sûr, c'est-à-dire en euros actuels, de 80 euros par mois. Pas beaucoup. L'espérance de vie, une idée, 25 ans. À peine 10% de la population mondiale, âgée de plus de 15 ans, est alphabétisée. Or, les deux textes de Mandeville proposent un remède qui, vous allez voir, est très contre-intuitif et inédit pour sortir de cette pénurie. Donc, le premier texte, le plus connu, La fable des abeilles, repose sur une maxime qui s'énonce ainsi. Une maxime très très étrange, très bizarre, vraiment très paradoxale, contre-intuitive. Les vices privés, c'est-à-dire tout ce qui est moche, pas beau, l'avidité, les pulsions, les tromperies, etc. Les vices privés c'est la première segment de la phrase, font la vertu publique. Je vois des sourires en se disant, il est gonflé, bah oui, il est gonflé. Les vertus, les vices privés font la vertu publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il recommande de laisser les pulsions, les passions, comme je disais tout à l'heure, notamment les passions d'avidité, aller librement à leur finalité. Pourquoi? Pour que la richesse se crée chez quelques-uns, pulsion d'avidité, celui qui va amasser. Pourquoi? Pour qu'elle ruisselle ensuite sur les autres. N'est-ce pas? Eh bien, vous avez tout compris. C'est la première théorie du ruissellement qui existe, si j'ai bien compris, encore de nos jours, y compris à certains hauts niveaux de l'État. Alors, pour savoir au juste ce que Mandeville entend par vice, il faut lire la seconde édition de la Fable des abeilles, 1723, où il commente son texte strophe par strophe. Il écrit ainsi, je cite, que les plus grands, je cite, hein, c'est pas moi, les plus grands scélérats contribuent au bien commun. Ne faites aucun rapprochement avec la situation actuelle. Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi et comment? Eh bien, si le vol, la prévarication, la luxure, la prostitution, les drogues, la pollution, le luxe extravagant de quelques-uns, le versement de pots de vin, etc., contribuent au bien commun, c'est parce que ces méfaits créent des poches d'argent qui permettront d'une façon ou d'une autre, ensuite, le fonctionnement du commerce par l'achat de biens et de services qui permettra donc à ce commerce de se développer. La thèse principale de la pensée de Mandeville est claire. Les attitudes, les caractères, les comportements généralement considérés comme l'effet désastreux du vice sur l'individu, alors on peut lister, hein, reprendre, l'appât du gain, le goût du luxe, train de vie dispendieux, tromperie sur la qualité des produits, corruption, goût de la destruction, prostitution, libertinage, vol, etc., sont en fait, dit-il, pour la collectivité, à la source de la prospérité générale et favorisent le développement des arts et des sciences. Vous voyez, je vous avais dit que le monsieur était un peu singulier. Eh bien, quelque chose donc de l'anthropologie libérale, qui fonctionne encore de nos jours à mon sens, est né à cette époque. La morale de cette anthropologie libérale pourrait s'exprimer ainsi. Soyez aussi avides, égoïstes. On parle beaucoup d'individualisme contemporain. Donc soyez aussi avides, égoïstes, dépensiers pour votre propre plaisir que vous pourrez l'être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. Avec une formule, donc, Mandeville pense avoir trouvé la martingale gagnante pour sortir de la pénurie. C'est le véritable point d'appui pour lui pour réformer entièrement le monde. Et il entreprend donc de démontrer cette formule à l'infini et d'en explorer toutes les variantes, comme celle-ci par exemple, exprimée dans la remarque G, hein, de la commentaire sur sa propre Fable des abeilles, qu'il a intitulé, donc, je répète, les plus grands scélérats contribuent au bien commun. Il veut dire quoi? Il veut dire que la guerre contribue au bien commun, que le vol contribue au bien commun, que la prostitution et la luxure contribuent au bien commun, l'alcool, les autres drogues contribuent au bien commun, pollution, le luxe extravagant de quelques-uns contribue au bien commun, etc. Alors, comment Mandeville raisonne-t-il? Eh bien, prenons par exemple une catastrophe causée par une guerre ou un séisme. Par exemple, le grand incendie de Londres qui, en 1666, a consumé la plus grande et la plus belle partie de la ville. Et voilà ce que dit Mandeville, je cite. J'irai plus loin, écrit Mandeville, en démontrant l'utilité des pertes et des malheurs privés pour l'intérêt public. L'incendie de Londres fut une grande calamité, mais, il y a toujours un mais réparé, perdu et détruit par les incendies, les tempêtes, les combats sur mer, les sièges, les batailles, a constitué une partie considérable du commerce, ce qui a permis donc à ce commerce de se développer. Prenons maintenant le vol. C'est très répréhensible, mais, toujours mais, le travail, je cite Mandeville, hein, littéralement, le travail d'un million de personnes serait bientôt fini s'il n'y en avait pas un autre million qui fût uniquement employé à consommer, c'est-à-dire à voler leurs travaux. Par exemple, si on vole 500 ou 1000 guinées, c'est la monnaie de l'époque, à un vieil avare qui riche de près de 100 000 livres sterling n'en dépense que 50 par an, eh bien, si on vole de 500 ou 1000 guinées, il est certain qu'aussitôt, cet argent volé vient à circuler dans le commerce et que la nation gagne à ce vol. Elle en retire le même avantage que si une même somme venait d'un pieux archevêque qui l'aurait légué au public. Et dès qu'on a acquis cette façon paradoxale de penser, on peut aisément continuer le raisonnement à la place même de Mandeville. Par exemple, y aurait-il des avocats, et donc des professeurs de droit, et donc des universités de droit, et donc des architectes qui ont construit ces bâtiments? Y aurait-il tout ça s'il n'y avait pas de voleurs? Il n'y aurait pas besoin de droit, de professeurs de droit, d'université de droit, d'architectes pour construire, si le voleur n'était pas là pour justement instruire son cas, le punir, mais tout ça, ça existe grâce donc à l'existence du voleur. Y aurait-il des prisons, des gardiens de prison, donc des architectes de prison et donc des philosophes pour imaginer le panoptique carcéral s'il n'y avait pas de voleur? Eh bien, toutes ces activités qui contribuent éminemment au développement de la civilisation, on les doit aux voleurs. Prenons maintenant la prostitution. Certes, c'est moralement très dommageable pour le client et pour la femme. Mais, imaginons, je cite Mandeville, je cite littéralement, un voleur de grand chemin qui revient chargé d'un riche butin, un voleur de grand chemin qui revient chargé d'un riche butin, charmé des attraits d'une nymphe, d'une prostituée. Il lui donne 10 livres sterling pour aller s'habiller. Bien s'habiller. Y a-t-il un marchand assez consciencieux pour refuser de lui vendre une pièce de satin, quoi qu'il sache même qui elle est? Non, il n'y en a pas. On peut aussi ainsi continuer le raisonnement à la place de Mandeville. C'est grâce à l'argent de la prostituée que celle-ci tient du voleur, que le couturier, à qui elle achète du satin, pour mieux plaire à ses clients, mieux s'habiller, de pauvre qu'il était, ce couturier, deviendra plus riche et pourra ainsi, devenant plus riche, envoyer ses enfants à l'école. Et ce bienfait de la civilisation aura été rendu possible grâce à qui? À la prostituée. Même chose pour l'alcool, qui permet non seulement le développement du commerce, l'art de brasser de la bière, de produire du gin, d'ouvrir des pubs, etc., mais aussi l'expansion de la médecine et de son art pour soigner les effets de certains excès. Même chose pour le tabac. Je cite Mandeville. Un immense commerce se fait grâce à l'habitude de briser, celle de fumer du tabac, qui, toutes deux, cela est certain, font infiniment plus de mal que de bien à ceux qui s'y adonnent. Mais ça permet quand même un immense commerce. Même chose pour ce que nous appellerions aujourd'hui la pollution, et qu'on appelait à l'époque les immondices. Je cite. Les rues puantes de Londres, encombrées d'ordures, de souillures de chevaux et d'autres animaux, sont une suite nécessaire de l'abondance et des richesses du commerce et de l'industrie de cette puissante ville. Mais ce n'est là, bien sûr, qu'un mal nécessaire. D'ailleurs, ceci est-il vraiment un mal, puisqu'il suffit alors qu'on déblaye les immondices, qu'on balaye les rues, comme il dit, et mendie. Et alors que beaucoup sont heureux de gagner leur vie à de si basses fonctions. Sinon, ils ne gagneraient pas leur vie. Bon, ça suffit, je pense que vous avez compris. C'est alors donc que s'enclenche le plus retentissant scandale philosophique de toute l'Europe des Lumières. Mandeville est accusé d'être un esprit libertin et athée. Son livre est mis en accusation par le Grand Jury de Middlesex en 1723. Il est mis à l'index en France, où la fable des abeilles a été traduite en 1740, et cette fable des abeilles est brûlée par le bourreau sur la place publique en 1745. Partout, donc, autodafé des livres de Mandeville. On dénonce ces textes, les œuvres du diable, on transforme son nom de Mandeville en Mandivol, en anglais, l'homme du diable. Le second texte est un court libelle de 12 pages intitulé « Recherches sur les origines de la vertu morale ». Elles exposent donc le programme politique qui permet d'appliquer le postulat scandaleux de la fable des abeilles sur la possible transformation du vice en vertu. À ce petit livre de 12 pages, j'ai consacré un livre entier, dans la mesure où ce texte était tombé dans l'oubli et qui nous révèle, vous allez voir, une dimension politique extrêmement importante pour la mise en place de ce système. Au cœur de ces deux textes, qui à mon avis vont constituer le logiciel de l'utopie capitaliste, il y a l'idée paradoxale donc que du mal peut sortir le bien. C'est là un prolongement donc très audacieux, car post-théologique, de ce qui avait déjà été esquissé quelques années plus tôt, en 1710, par Leibniz, dans ses essais de théodicée, où se trouve l'idée donc que l'existence du mal sur Terre n'est nullement incompatible avec l'existence de Dieu. Bien au contraire. 1710. Revenons donc à ces recherches sur les origines de la vertu morale. Voici le déroulé de l'argumentation de ces recherches. Eh bien, Mandeville dit en gros ceci, si l'on veut que les hommes, égoïstes par nature, se tiennent tranquilles, il faut les amener à modérer leurs appétences. Auparavant, sous les anciens régimes, il y avait le joug. Mais depuis la Révolution anglaise de 1689, le fondement de la démocratie, c'est plus le joug qu'il faut employer, c'est la ruse qu'il faut employer. En effet, aucun argument raisonnable ne saurait persuader les hommes de suivre cette sage recommandation de modération. Pour qu'ils consentent à obéir aux lois, c'est quand même l'exigence des dirigeants politiques. Pour qu'il consente donc à obéir aux lois, il ne reste donc, c'est la rançon de leur égoïsme, qu'à les payer. Mais comme ils sont nombreux et qu'il n'y aura jamais assez d'argent pour tous les rémunérer, il faut les dédommager, dit Mandeville, avec une monnaie qui ne coûte rien. Vous voyez que l'homme est habile, hein ? C'est en effet en parole on peut les payer en parole, avec des flatteries, célébrant l'étendue de leur entendement, leur noble souci de la cause publique. En finesse psychologique de l'envie, car cette façon de circonvenir les hommes utilise le fantasme de leur vertu. Il n'est pas psy pour rien, le fantasme de leur vertu. Elle constitue pour Mandeville l'essence du politique. C'est ça l'essence du politique pour Mandeville, cette politique de la flatterie. Seule, dit-il, cette politique de la flatterie est susceptible de servir les hommes ensemble en les contraignant à modérer leurs appétences. Ça, c'est du point de vue de ce que veulent les dirigeants. Il résulte de cette politique de la flatterie deux classes. Deux classes au sens plus psychologique que sociologique du terme. D'une part, il y a un petit nombre d'individus non dupes qui ne veulent rien entendre de cette recommandation et qui courent sans cesse vers des jouissances immédiates. On les appelait alors les scélérats. Ils ne pensent qu'à leurs avantages personnels. C'est la classe dangereuse, composée donc de bandits, de voleurs, de proxénètes, de prostituées, de mendiants, de trafiquants, en tout genre. Mais cette petite classe vile d'irréductibles est fort utile car elle agit comme un repoussoir. Un repoussoir qui permet la création en regard d'une large classe supposément vertueuse, composée de créatures qui pourront se targuer d'avoir réussi là où ces autres vides ont échoué. Nous voici donc avec deux classes. Et c'est là où le génie de Mandeville s'exprime. Il montre que cette manipulation politique, la politique de la flatterie, n'a qu'un but. Une troisième classe invisibilisée, composée, dit-il, des « worst of them », les pires d'entre tous les hommes. Troisième classe composée des pires d'entre les hommes, on les appellerait aujourd'hui des pervers. Pourquoi pire ? Parce qu'ils se caractérisent par le fait de simuler l'abnégation, en parlant comme ceux de la classe vertueuse, et de dissimuler leur penchant avide, ils les rattachent à la classe vide, en prônant le bien public. Il s'agit donc pour eux de faire semblant d'obéir à la loi dans un double but, profiter du prestige des vertueux, et surtout tenir tout le monde tranquille, afin d'en tirer tous les bénéfices possibles. Cette troisième classe invisibilisée récolte tous les bénéfices puisqu'ils font tourner les affaires et grâce au double jeu peuvent gouverner avec facilité. Il leur suffit en effet de prêcher l'esprit de dévouement au bien public, de prêcher par exemple le bonheur demain par le développement de la croissance qui servira à tout le monde, à enrichir tout le monde et qui mènera donc à la richesse pour l'élévation de la niveau de vie. Pour tous, il suffit donc de cela pour mieux contraindre à l'abnégation et à l'honnêteté tous les autres, ce qui permet de les faire travailler à leur service afin de récolter tranquillement les fruits de leur labeur. Mais c'est donc à une révision drastique de ces connaissances que ce petit texte, qui était, je répète, complètement oublié, j'ai sorti de l'oubli dans un texte qui s'appelle « Baisse ton prochain », donc révision drastique de nos connaissances. Pourquoi ? Parce que l'invention de l'inconscient avec l'utilisation de la logique du fantasme de la vertu, on veut tous être vertueux, et certains usages de la perversion, tout cela ne date pas de Freud en 1900, mais c'est antérieur de deux siècles. Leur compréhension et leur utilisation sont contemporaines, en fait, de la naissance du capitalisme au cours de la première révolution industrielle anglaise et a d'abord servi à tenir les hommes en bride. Vous voyez donc que la grande force de Mandeville, c'est d'avoir compris comment des éléments venus de l'économie psychique, c'est ainsi, je vous l'ai dit, pouvait être mobilisé dans une toute nouvelle économie politique et marchande. Mais c'est pas tout, parce que c'est en fin de compte une nouvelle religion qu'il annonce. Comme par hasard, j'ai écrit il y a 15 ans à peu près un texte qui s'appelle Le Divin Marché. Vous savez, avec le marché qui pourrait nous apporter le bonheur absolu. Et bien là, mon ville annonçait donc une nouvelle religion. C'est une révélation qui bouscule les prêches classiques sur le bien et sur le mal. Parce qu'il avance que cette élection des pires d'entre tous, comme il dit, worst of them, les salauds, quoi, cette élection des salauds, pourrait bien, en définitive, avoir été voulue par Dieu. En effet, si Dieu a fait les hommes imparfaits, cupides, menteurs, ce qui est conforme au vu calviniste, donc, ce pourrait être, selon Mandeville, à dessein. Mandeville suggère donc que le temps des hommes saints, ou supposés, est révolu. Il faut, et c'est sa proposition, confier son destin au pire des hommes, ceux qui veulent toujours plus, quels que soient les moyens employés, car c'est la seule voie possible pour que la richesse s'accroisse et de là ruisselle sur le reste des hommes. Ce qui, à terme, devrait permettre à un grand nombre d'eux d'atteindre le bonheur temporel, c'est-à-dire le paradis sur terre. Voilà, après cette présentation de Mandeville, donc, vous vous souvenez peut-être que j'ai dit qu'il avait été largement oublié, alors qu'il avait été extrêmement célèbre à l'époque, et que son travail avait été diffusé partout, ses idées avaient été diffusées partout. En fait, il n'a pas été oublié par tout le monde, et notamment pas par quelqu'un qui a été très important au XXe siècle, et qui s'appelle Friedrich Hayek, si ça vous dit quelque chose. 1899-1992. Hayek, c'est le créateur de la fameuse société Pèlerin en 1947. Eh bien, si j'évoque Hayek, c'est parce qu'il a développé une thèse très mandevillienne. Hayek, c'est un penseur d'origine viennoise, comme beaucoup d'économistes, très érudit, économiste, philosophe, psychologue, historien, politologue. Et il visait à reconstruire le libéralisme après la Seconde Guerre mondiale, à partir de fragments perdus de vue ou mal entendus depuis deux siècles. Et il y a finalement si bien réussi qu'il est ensuite devenu le chef de file, l'un des deux chefs de file avec Friedman, de l'école dite néolibérale de Chicago. Qui a été si importante pour la transformation de notre monde. École néolibérale de Chicago qui revendique donc le libre marché, sans aucune régulation. Il faut laisser faire le marché. Faut pas, le marché est plus intelligent que vous tous, que nous tous. Donc il faut le laisser faire. Si on essaye de le réguler, on va contrarier cette... lieu majeur qui peut aider donc à amener de la richesse. Donc, cette école de Chicago revendique le libre marché et le monétarisme et s'oppose donc à l'autre courant d'alors qu'on appelle, courant économiste, qu'on appelle le keynésianisme et s'oppose aussi à toute régulation. Eh bien, c'est cette école fameuse qui est à l'origine, tenez-vous bien, de toutes les grandes décisions économiques depuis 40 ans dans le monde. Et où Hayek a-t-il trouvé ces fragments décisifs? Eh bien, notamment dans les propositions venues de Mandeville, qu'il a tout simplement présenté comme un mastermind, c'est-à-dire un grand esprit, un maître à penser. Plusieurs conférences, donc de Mandeville sur Mandeville Mastermind. En effet, pour Hayek, Mandeville conduit directement donc à celui qu'on présente comme le fondateur des sciences économiques, Adam Smith, et au concept donc de main invisible qui harmonise les intérêts privés. et contrairement aussi à David Hume, le philosophe, et au rôle moteur non de la raison, mais des passions dans l'histoire. Eh bien, c'est en s'appuyant sur un tel esprit, Mandeville, que cette petite société d'économistes, en rupture de banc par rapport aux règles usuelles, donc cette petite société du Mont Pèlerin, s'est mise à fonctionner sur le mode du prophétisme religieux. C'était une sorte de secte, en somme, qui cherchait à prouver une utopie, selon le mot même de Hayek, s'inspirant de Mandeville. Et cela a si bien réussi qu'elle a inventé cette religion qui s'est mondialement imposée, dans laquelle nous sommes encore, j'ai appelé ça le divin marché, un ordre dispensé, si parfait pour Hayek, qu'il doit être absolument tenu à l'abri de toute tentative humaine de régulation, que ce soit au nom des intérêts collectifs, du social, de l'État, etc. Donc c'est la fameuse proposition du néolibéralisme, donc moins d'État dans les affaires et plus d'affaires dans l'État. Hayek tient en effet de Mandeville que les hommes peuvent bien décider ce qu'ils veulent, par exemple la probité, c'est la deuxième partie de l'affaire des abeilles, cela ne pèse rien par rapport à leur nature, qui les pousse à accomplir en dépit d'eux-mêmes des formes de socialité complexes et très évoluées, qui les dépassent de toutes parts, et qui ne peuvent s'édifier qu'en laissant libre cours à leur passion, leur vice. Ce qui découle donc de la formule phare, demande-t-il, les vices privés font la vertu publique. Eh bien, fondé sur cet axiome mandevillien par Hayek, entouré de 35 membres lors de sa création, dont 8 ont reçu ensuite le prix dit Nobel d'économie, dont Friedrich Hayek lui-même, Friedman, Buchanan, Gary Becker et d'autres. Cette petite société, financièrement soutenue dès l'origine par de grandes entreprises, a donné naissance à de très nombreux think tanks, environ 200 dans les années 1970, et ces derniers, donc, contre le keynésianisme ambiant, qui prenait, lui, la régulation, ont souterrainement diffusé l'idée néolibérale avant que celle-ci ne s'empare officiellement du monde pour le refigurer complètement à partir des années 1980 avec l'élection de Margaret Thatcher en Angleterre et de Reagan aux États-Unis. Et bien justement, on sait aujourd'hui que deux de ces think tanks issus de cette société ont joué un rôle décisif dans les arrivées au pouvoir de Margaret Thatcher en Angleterre 1979, et de Ronald Reagan aux États-Unis en 1980, c'est respectivement l'Institute of Economic Affairs et Heritage Foundation aux États-Unis. On pourrait donc parler d'un projet mandevillien revu et corrigé et amplifié par Hayek pour passer de la pénurie à l'abondance sous l'égide d'un marché sans limites. Et bien, bizarrement, force est de constater que, d'une certaine façon, ce projet a réussi. Les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, en 1700, ceux qui montraient donc le manque, la pénurie, eh bien, je vous donne ceux de 2020. Le monde, en 2020, est, en effet, globalement, 100 fois plus riche que celui de 1700, avec 10 fois plus d'habitants, en moyenne 10 fois plus riche. Donc ça fait 100 fois plus riche. L'espérance de vie à la naissance est passée d'environ 25-26 ans, en moyenne, dans le monde, en 1700, à 72 ans en 2020. Le taux d'alphabétisation est passé de 1700 à 2020 de 12 à 85%. Vous trouverez ces chiffres dans le dernier livre de Piketty qui s'appelle Capital et idéologie, hein, qui est paru au Seuil il y a 2 ans, 3 ans. On y trouve plein de chiffres des sociales qui vont justement de 1700 à 2020, qui sont justement les, qui m'intéresse, c'est 3 siècles. Et bien, vous voyez, ça marche très très bien tout ça. Sauf que, il y a un prix à payer pour la réussite d'un tel prodige. Et le prix, il est tout simplement exorbitant. C'est rien de moins que la possible destruction du monde physique dans un contexte d'inégalité sociale qui s'aggrave. En effet, pour que le marché marche, il a fallu que tout ce qui pouvait être exploité sur Terre, dans les océans, le vent et ailleurs, le soit sans retenue. Le monde, au fil de ces 3 siècles, est devenu un immense complexe de ressources à exploiter de façon rationnelle et industrielle. Or, quand on exploite à outrance, on détruit inexorablement l'environnement et on dérègle les équilibres naturels des écosystèmes, de nos écosystèmes, ceux qui permettent la vie. De plus, nous sommes loin du paradis sur Terre promis par l'utopie. Selon les derniers chiffres de l'ONG Oxfam, les 1% les plus riches de la planète possèdent 2 fois plus que les richesses cumulées de 90% de la population mondiale. Je répète, 1% possède 2 fois plus que 90% de la population mondiale, soit à peu près 7 milliards aujourd'hui d'individus, de personnes. Et près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de $5,5 par jour. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Vous voyez que l'utopie mandelienne, revue et corrigée, mais continuée par Hayek, est manifestement en train de tourner à la dystopie. Nous ne savons pas si dans 1, 2 ou 3 générations, le monde sera encore habitable. Donc, saura-t-on apporter les corrections nécessaires, transitionner vers autre chose avant qu'il soit trop tard? Voilà, je vous laisse avec cette question et je vous remercie.
Alors, vous avez certainement envie de poser des questions à Dany Robert Dufour. Donc, qui se lance ? Ma question, elle est juste de savoir si réellement Hayek s'est inspiré de Mandeville. Si Hayek s'est réellement inspiré de Mandeville. Enfin, est-ce qu'il a lu ce qu'il a écrit et est-ce qu'il a eu la connaissance Hayek ?
Une conférence qui a été prononcée en Angleterre, à l'Académie royale d'Angleterre, où il expose donc cette conférence qui s'appelle Mandeville Mastermind. Et il explique pourquoi il faut le considérer comme un mastermind. Au moment de la création de la Société du Mont Pèlerin en 1947, il a écrit un livre qui s'appelle Individualisme, je ne sais plus quoi, et économie, où il montre l'usage que l'on pourrait faire de Mandeville pour la création, donc, guidée d'un marché qui ne doit pas être régulé et qui doit fonctionner sans aucune modalité de régulation, sans frein. Donc c'est très très clairement dans différents travaux essentiels de Hayek une référence. Mandeville est une référence essentielle.
Bonsoir, merci pour votre conférence et après votre démonstration assez implacable du fait que après votre démonstration assez implacable que le capitalisme détruit le vivant, qu'est-ce que vous proposeriez comme moyen d'agir collectivement ou individuellement face à des intérêts économiques puissants et qui, en fait, se sont accaparés au fil des siècles toutes les capacités d'action de la planète?
Merci pour votre question. Je pense que votre question contient la réponse. Il y a des intérêts extrêmement puissants qui se sont emparés de toutes les possibilités d'action sur la planète. Donc, pour l'instant, je ne vois pas d'issue, malheureusement, tant que nous resterons dans cette situation. Alors, vous savez, ça fait longtemps qu'on annonce que le capitalisme mourra de ses propres crises. Marx, par exemple, avait donc prophétisé que le capitalisme allait mourir de ses propres crises industrielles, de surproduction, financière, etc., etc. Et le capitalisme a toujours réussi à déplacer ses limites, à fonctionner de la même façon et à déplacer ses limites, en exploitant les hommes et en exploitant toujours plus la nature. Mais aujourd'hui, on est vraiment à une limite absolue, puisque cette extension du capitalisme est en train de détruire la nature. Et donc là, je ne sais pas si le capitalisme mourra de ses propres crises, ou si nous mourrons des crises créées par le capitalisme. Mais en tout cas, la crise est cette fois inévitable. On ne peut plus l'éviter. On a eu quantité d'alertes sur la destruction des écosystèmes depuis un certain nombre d'années. Ça progresse avec une rapidité, ces alertes, stupéfiante. Et donc, on est cette fois confronté à une limite absolue. Comment faire pour en sortir? Si j'avais la solution, je vous la dirais volontiers. Je n'ai pas cette solution. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit très bien vous-même, l'ensemble des moyens et d'information et de production est entre les mains de cette troisième classe qui fait semblant de prôner la vertu et qui continue sur sa lancée. Alors peut-être qu'il est en train de fabriquer des fusées comme M. Jeff Bezos et Elon Musk pour se barrer ailleurs et nous laisser cette terre dans un état de destruction tel que nous ne pourrons plus l'habiter et qui continueront le saccage ailleurs, ça je n'en sais rien. Peut-être que c'est la solution qu'eux voient. Mais si c'est ça, alors qu'ils se barrent tout de suite dans leur fusée, ils nous laissent tranquilles. Mais bon, si ce n'est pas très raisonnable ce que je dis, alors il va falloir que nous disions que nous ne pouvons, nous sommes à la dernière limite pour réagir. À l'extrême limite pour réagir. Réagir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que reprendre la main sur la somme des intérêts privés dont est composé le marché. Reprendre la main, c'est reprendre collectivement la main. Que donc ce qu'on a désigné comme justement cette instance qui ne devait plus intervenir, c'est-à-dire l'instance collective, pour que les intérêts privés du marché puissent se développer, il va falloir que cette instance collective reprenne la main. Comment? Je ne sais pas. J'espère que ça sera possible. Je n'en suis pas sûr. Et si ce n'est pas sûr, notre destruction est assurée. Ça, j'en suis assuré.
Bonsoir. La question que je me pose, c'est si cette évolution, cette théorisation du capitalisme est vraiment la cause de tout ça, parce que le fait qu'une poignée de puissants allait dans la démesure, ça existe depuis bien avant. C'est-à-dire que pendant les royaumes, les empires, et si on remonte depuis même les Mésopotamiens, l'asservissement des peuples, c'est quelques puissants qui accaparaient les richesses et qui donnaient toute la démesure à leur volonté. Et la théodicée négative désastreuse aujourd'hui, est-ce qu'elle est vraiment due à finalement le fait que quelques puissants tiennent les rênes du monde, ou au fait que l'essor de la technologie a démultiplié? Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié aux technologies, aux techniques, mais que la nature de démesure humaine, de l'abus des pouvoirs et de l'accaparement de la puissance par une petite poignée, une infinité de personnes, existait depuis le néolithique.
Oui, alors je suis entièrement d'accord avec vous, avec cette remarque. L'hubris humaine existe depuis la nuit des temps. Seulement l'hubris humaine, telle qu'elle se développe, par exemple, dans un royaume qui n'a pas donc les moyens de production et la technique nécessaire pour transformer le monde, c'est une chose. Et puis quand elle a les moyens, cette hubris humaine, de s'emparer donc des sciences et des technosciences, pour les mettre au service d'un projet de démesure, c'est autre chose. Et l'autre chose, c'est effectivement qu'on intervient sur le monde beaucoup plus qu'autrefois. Notre monde est maintenant complètement... Qu'est-ce qui reste d'un monde qui serait non façonné par l'homme? La main de l'homme se voit partout. Je regardais là quand je venais en train, bon, partout des routes, des ponts, des constructions des éoliennes, c'est une bonne chose, mais quand même, ce sont des constructions humaines qui montrent que l'emprise de l'homme sur le monde est partout. L'homme a transformé grâce aux technosciences qui se sont développées au moment du capitalisme notamment. Ça a commencé avec la machine à vapeur. Hein, j'explique ceci dans mon livre donc sur l'origine terrain du capitalisme, comment à partir des années, juste au moment de Mandeville, hein, 1714-1720, la machine à vapeur, qui était d'abord employée dans les mines, a été employée pour elle-même, pour ses moyens de traction, de locomotion, de remplacement des forces animales ou humaines, et a accru considérablement donc tout le traitement des matières premières et de production de produits finis. Ça n'existait pas autrefois. C'est vraiment contemporain du capitalisme. Et cette accélération des sciences et des techniques, donc sous l'égide du capitalisme, connaît un développement aujourd'hui absolument phénoménal. Donc on n'est pas sorti de l'affaire. Voilà ce qui change entre les deux hubris, les hubris d'autrefois qui ont toujours existé, et l'hubris actuel qui permet donc une intervention majeure. Je dirais même monstrueuse sur le monde et sur la transformation du monde. Tout maintenant dans le monde est une matière à exploiter. Le moindre coup de vent, la moindre molécule qui traîne dans une herbe au fond de l'Amazonie, tout doit être exploité. Une terre rare, le fond des océans, tout doit être absolument exploité dans le monde grâce aux technosciences développées par le capitalisme. Donc ça donne à cette hubris quand même une dimension nouvelle, une dimension d'intervention et de destruction sur le monde qui n'existait pas autrefois.
Oui, bonsoir. Il me semble que ce que vous décrivez procède essentiellement de l'accaparement par quelques-uns, accaparement de plus avec le développement des techniques, le développement des moyens, mais aussi accaparement possible, la législation du droit de propriété. Est-ce que éviter cet accaparement et permettre le partage par le plus grand nombre ne nécessite pas de remettre en cause le droit de propriété ?
Je pense que vous avez touché à un point extrêmement important, puisque ce droit de propriété, maintenant, est aussi un droit de propriété sur le vivant. et sur le brevetage du vivant, que ce soit donc notre corps, nos gènes, notre architecture génétique, tout ce qui peut intervenir sur cette architecture génétique, donc ces technosciences qui interviennent sur l'architecture génétique, qui sont en train, en plus des technosciences qui existaient, de transformer les conditions même de la vie et de notre vie. La forme actuelle que prend le capitalisme savant, c'est un horizon, une promesse. Vous savez que bon, ces grands systèmes fonctionnent toujours sur des promesses, qui sont des promesses la plupart du temps et qu'ils ne peuvent pas tenir. Bon, je ne sais pas, les grands systèmes d'autrefois, on parlait des hubris anciennes, par exemple, les grands systèmes d'autrefois, les systèmes monothéistes, par exemple, promettaient donc la vie éternelle. Si vous vous tenez bien sur Terre, si vous observez les commandements, eh bien, vous gagnerez la vie éternelle. Comme personne n'est jamais revenu de là-haut pour dire s'ils nous ont roulé, il n'y a rien du tout, on continue d'y croire, à la vie éternelle. Bon. L'autre promesse a été la promesse faite par Mandeville et la promesse faite par Adam Smith, renouvelée par Hayek, vous allez tous devenir riches. Je vous rappelle le titre du ouvrage principal de Adam Smith, La richesse des nations. La promesse de sortir de la pénurie pour Mandeville. Donc la promesse, vous allez devenir riche. On voit le résultat de cette promesse aujourd'hui, quand je vous ai dit que 1% possédait deux fois plus que 90% de la population sur Terre. Une autre promesse qui est faite, qui rejoint donc les remarques que vous faites à juste titre, c'est la promesse, donc non plus de la vie éternelle, mais d'un post-humanisme, de sortir de notre condition de mortel. Voilà une promesse donc, qui soutient un certain nombre d'espérances et dont on ne sait pas du tout comment elle peut se réaliser, puisque pour qu'elle se réalise, la promesse post-humaniste, il va falloir probablement défaire et détruire l'homme dans sa composante actuelle. C'est-à-dire que vous voyez qu'on arrive à donc, des problèmes extrêmement graves, puisque même si ça fonctionnait, il n'y aura pas de place pour tout le monde pour s'embarquer sur les bateaux du post-humanisme. Comme il n'y aura pas de place pour tout le monde pour s'embarquer sur les fusées de Jeff Bezos ou de Elon Musk. Bon, pareil, sur les bateaux du post-humanisme qui nous mèneront vers ce continent où nous serons libérés de la mort, peut-être que quelques-uns y passeront, mais pas beaucoup, quelques-uns seulement. Donc ça créera dans l'espèce humaine, si ça marche, ce n'est pas sûr, si ça marche, ça créera une scission dans l'espèce humaine. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des scissions dans l'espèce humaine. La précédente, c'était à l'époque du nazisme, qui avait décrété qu'un certain nombre étaient des surhommes et d'autres, donc, par définition, des sous-hommes. Et bien, ceux qui bénéficieront de la promesse du post-humanisme, c'est-à-dire s'affranchiront de la mort, créeront, d'une certaine façon, une nouvelle espèce, et nous deviendrons une nouvelle sous-espèce. Bon. Donc, voilà, il y a mainmise, maintenant, sur l'ensemble des biens, par les droits, ce sont ce que vous appelez les droits de propriété à juste titre, mais il y a mainmise aussi par les droits de propriété sur ce qui constitue notre être même, notre être biologique, le vivant et le bios même dans lequel baigne ce monde. Tout est breveté, vous n'avez pas le droit de consulter un certain nombre de formes qui réfèrent à tel ou tel objet vivant dans le monde, plante ou animal, sans vous référer donc à ceux qui détiennent les droits qui ont été déposés, qui donc permettent donc de mettre la main sur donc ce vivant même dont nous sommes constitués, et d'avoir la maîtrise et le contrôle sur l'ensemble des processus du vivant. Donc lui, la question des droits de propriété est une question décisive. Là encore, pour que ce droit de propriété passe du champ du privé au champ du public.
Bonjour. Oui, c'est tout à fait juste, mais on sait que c'est la petite histoire qui fait la grande. Donc du coup, on a l'impression qu'en fait, les causes primaires de tout ça se situent dans la psyché elle-même de l'être humain, qui est dressée, qui est formée, qui est structurée de nature depuis le premier homme, avec cette notion de le prochain, moi, différent de l'autre, la comparaison, se juger et surtout se positionner par rapport à l'autre. Donc la société d'aujourd'hui, elle est juste le reflet de ce qu'on est. Et en fait, de ce qu'on a développé, le pouvoir passe de main en main. Les millions d'argent sont dans une main, mais pourquoi pas dans l'autre? Enfin, qu'on soit petit ou grand ou moyen, notre psyché, c'est la même. Et donc, du coup, on a l'impression que pour passer à travers ce qui se passe actuellement, la seule chose, c'est une révolution totale de notre psyché, c'est-à-dire notre façon de nous présenter au monde, c'est-à-dire ne pas se positionner contre ou en comparaison de l'autre, mais comprendre qu'on est exactement dans la même dynamique et que, en fait, eh bien, on a oublié qu'on était tous un et que quand on se positionne contre quelqu'un, on se met aussi contre soi. Et ça, il faut vraiment le percevoir. Et ça donne une façon de penser et de réfléchir qui sera totalement différente, du coup. Parce qu'on prendra en compte le bien commun tout en se rendant compte que c'est pas en prenant en compte le bien commun qu'on va être plus pauvre. Au contraire, ça enrichit tout le monde. Mais ça, ça demande une vraie révolution intérieure dans nos propres vies par rapport, parce qu'on est tous pareils. C'est le nombre de zéros qui change. Mais dans notre société, enfin nous, personnellement, même dans nos familles et au milieu, voilà, on passe notre temps à se comparer aux voisins, l'herbe est plus verte à côté, etc., etc. Et ça, c'est vraiment la structure et la nature de notre ego. Et c'est ce truc-là qui a donné ce qu'on est aujourd'hui, en fait. Donc, c'est une révolution de ça, quoi. Voilà.
Écoutez, je vous suis parfaitement dans l'idée que ce qui réfère à l'économie, est extrêmement important. On l'a vu dans la construction même du capitalisme par Mandeville, l'invention du capitalisme par Mandeville. C'est-à-dire qu'il a construit une manipulation pour dire soyez vertueux, de façon à tenir les gens par donc le fait qu'ils seraient flattés s'ils sont vertueux. C'est une flatterie, la vertueux, ça n'existe pas véritablement. Ce qui a permis donc la création de ces deux classes, et puis donc la manipulation par cette troisième classe. Donc, effectivement, la dimension de l'industrie psychique, de l'économie psychique, est extrêmement importante pour comprendre l'économie politique et pour comprendre l'économie marchande. Alors, bon, maintenant que nous ayons tous le même psychisme, je ne vous suivrai pas sur ce terrain-là. Je pense qu'il y a justement des différences extrêmement importantes. Et je crois aussi que la façon dont ce psychisme est géré par ce qu'on pourrait appeler la loi, qui peut faire obstacle aux excès qui peuvent se manifester dans un certain nombre d'attitudes, de formes, etc., ou d'une loi qui peut au contraire contrecarrer et empêcher la formation de ces excès. Par exemple, on a noté, je ne sais pas si ce champ vous intéresse, mais je vais aller rapidement là-dessus, si ça vous intéresse, on pourra passer un peu plus de temps, mais des différences dans la conception du surmoi entre Freud et Lacan. Bon. Le surmoi chez Freud, c'est la petite voix intérieure qui parle en vous quand vous faites quelque chose. Quand vous faites une connerie, la petite voix intérieure vous dit « t'as fait une connerie, t'aurais pas dû faire ça, c'est vraiment pas bien pour ton voisin, pour toi, pour tes amis, t'as fait un truc qui se fait pas ». On vit avec une petite voix comme ça qui nous dit des fois, qui nous rappelle à l'ordre. C'est ça sur moi, c'est ça que ça prend, c'est ça qui nous dit « tu ». Nous on dit « je », c'est le « moi », et puis il y a une petite voix intérieure qui nous dit « tu ». Alors ça c'était chez Freud. Lacan dit « il y a une transformation du surmoi ». Le surmoi, maintenant, il est devenu... Alors qu'avant, c'est un surmoi emmerdant, hein, il était répressif. Hein. Vous faites la moindre connerie, il vous surveille, et il vous dit qu'on n'aurait pas dû faire ça. Bon, ça, c'était dans les anciens systèmes, des anciens systèmes un peu répressifs. Comme, par exemple, des systèmes religieux, qui étaient répressifs, avec des commandements qui vous disent « tu dois pas », etc., etc. Et Lacan dit qu'on est passé à un autre type de surmoi. C'est pour la définition du psychisme. Il dit maintenant on est dans un surmoi qui... il appelle ça un surmoi féroce et obscène. Le surmoi, il ne vous dit plus « t'aurais pas dû faire ça, c'est vraiment pas sympa de ta part ». Il vous dit « t'es con, t'aurais dû le faire, parce que même si c'est une connerie, tu aurais pu prendre l'avantage sur ceci ou sur cela ». Et si tu ne l'as pas fait, c'est de ta faute. Donc la prochaine fois, quand tu te retrouves dans cette situation, fonce. Donc c'est un surmoi non plus répressif, mais un surmoi incitatif. Et ça, ce surmoi incitatif, c'est quand même le produit d'une époque. Nous sommes maintenant à l'époque d'un surmoi incitatif. Ça se voit, par exemple, dans ce que les petits récits publicitaires qui s'adressent à votre surmoi vous disent. Avant, donc, le surmoi, c'est le surmoi religieux qui, je vous l'ai dit, disait « commandement, t'as pas le droit ». Maintenant, le petit récit publicitaire, qui fonctionne aussi comme d'une certaine façon comme une religion, mais dissimulée, il vous dit, comme on dit en anglais, « just do it ». Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, ça, t'es un con. Tu vas te laisser rouler par les autres. Donc, plutôt que de te laisser rouler par les autres, il faut que tu roules les autres. C'est ça, la fonction du surmoi à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, il y a le même psychisme, mais il est géré d'une façon différente selon les époques. Et ça me semble important à mentionner, justement, dans l'histoire même de cette économie psychique, que d'une époque à l'autre, ça ne fonctionne plus de la même façon.
C'est
ce qui est simplement la radicalisation de la manipulation. Bonsoir. Moi, j'avais une question, ça aurait été si la structuration de la pensée, elle dépendait de votre éducation, mais du modèle économique dans lequel on vivait. Donc, en soi, si on pense d'une certaine manière, ça dépend directement du modèle dans lequel on vit actuellement. J'ai pas eu l'occasion de voyager dans d'autres pays, en dehors de l'Europe, donc je peux pas savoir comment ça se passe.
Vous pouvez reprendre, développer un tout petit peu, que je comprenne mieux.
Sur la structuration de la pensée, c'est-à-dire qu'on a des développements cognitifs qui vont se faire. Est-ce que ces développements, c'est-à-dire qu'on va se poser certaines questions par rapport à ce qu'on constate de l'économie actuelle, quand même du modèle économique, donc là c'est le capitalisme. Et pardon, je suis désolé, je me perds dans ce que je vais dire, mais
écoutez, je comprends quelque chose. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire.
J'ai eu beaucoup de mal à poser des questions. C'est plutôt des remarques.
Bon, ce qui est marrant, c'est que je comprends quand même. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous dites, mais j'ai compris que le champ économique dans lequel nous vivons a des effets sur la façon dont nous pensons. Est-ce que ça a à voir avec ce que vous voulez?
Globalement, oui.
Oui, bon, merci. Donc, ma réponse est oui, là-dessus. Parce que quand nous vivons dans une économie de marché, qui est notre situation actuelle, le marché s'adresse à vous. Il s'adresse à vous par ce que j'ai appelé tout à l'heure les petits récits publicitaires. Mais il s'adresse à vous de façon permanente, parce que quand je clique avec un like sur mon ordinateur, quand je vois une photo qui me plaît, ou un bouquin qui me plaît, ou une image, ou une pensée qui me plaît, ces likes qui me font plaisir, parce qu'on dirait qu'ils s'intéressent à ce que je pense, et bien ces likes, ils sont capitalisés dans les data centers, et on sait au bout, par exemple, de 50 lives, ce que pense globalement une personne. On sait, au bout de 70 likes, à peu près situer une personne à peu près aussi bien, grâce à des algorithmes qui analysent ces likes, aussi bien qu'un conjoint. Avec 150 ou 200 likes, on sait mieux que le conjoint comment cet individu va réagir devant telle ou telle situation. ça veut dire que ce champ de la pensée, il est complètement structuré par la façon dont le marché vous appréhende et va vous proposer un certain nombre de produits, d'objets manufacturés, de services marchands, de fantasmes culturels fabriqués par les industries culturelles, qui vont supposer répondre à vos appétences. Donc ce que le marché fait, c'est que c'est une instance qui dit « demande ce que tu veux, nous avons tous les objets manufacturés, tous les services marchands, tous les fantasmes fabriqués par nos industries culturelles pour te satisfaire. » Donc vous voyez qu'on est là dans un ordre, il y a un ordre donc de la satisfaction des appétences. C'est là où le marché est fort. Le marché dit « je vais satisfaire toutes vos appétences, demandez ce que vous voulez, si vous entendez votre dernier iPhone, j'ai le prochain qui vient, je l'ai. » Et il va vous-même personnellement beaucoup plus que l'ancien. Bon, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Demandez tout ce qu'il faut. Donc quand on est dans une économie comme celle-ci, une économie marchande généralisée, non pas simplement au niveau de la production, mais aussi de la consommation, avec toutes les analyses, donc fonctionnement cognitif qui vont avec, c'est pas pareil que quand on est dans une économie qui est une économie de la pénurie, qui vous dit « j'ai rien à t'offrir ». Donc ne demande rien, débrouille-toi tout seul. On ne développe pas les mêmes façons de penser dans une économie, dans une autre. Donc voilà clairement, par exemple, quelque chose qui fait que dans notre économie marchande actuelle, nous sommes donc réceptifs à cette promesse de satisfaction de toutes nos appétences qui sont constamment faites. Parce que on voit là-dedans une promesse de réalisation personnelle. Ah, si j'avais tel objet, si j'avais ceci, si j'avais cela, alors je pourrais. Donc il faut que je travaille plus pour gagner plus, n'est-ce pas, pour me payer plus d'objets qui vont me permettre plus de réalisation personnelle. Voilà quelque chose qui modèle notre fonctionnement d'être social et notre champ de pensée dans ce domaine-là. Si alors, échapper à tout ça, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que il faut entamer une démarche extrêmement complexe pour échapper à ça. La démarche complexe, c'est de dire, écoute, le marché est bien gentil, mais tes objets, tes services et tes fantasmes, tu vas les garder pour toi, parce que ça ne correspondra jamais à ce que moi je veux. Parce que l'objet que moi je veux, c'est l'objet que moi je suis capable, tout seul, de fabriquer. Mais ça me met dans une position où je vais être créateur. Je vais être artiste, je vais être peintre, je vais être photographe, je vais être écrivain, etc. Je vais produire mon propre objet. Je ne vais pas vouloir des produits manufacturés. C'est l'objet singulier. Pourquoi ? Parce que si je produis cet objet singulier, si par hasard j'y arrive, c'est difficile, il faut du temps, c'est du boulot, il faut une formation, il faut vraiment une volonté. Mais si j'y arrive à produire cet objet singulier, c'est-à-dire si j'ai produit cet objet singulier, et bien si j'ai produit cet objet singulier, c'est qu'il y a fallu un sujet pour le produire. Et le sujet, c'est moi. Vous voyez, c'est l'idée que quand on fabrique quelque chose, dans cette position de créateur, où nous sommes très très peu, parce que nous sommes consommateurs, nous ne sommes pas créateurs, alors quelque chose donc de l'ordre du sujet peut se réaliser. Ce n'est pas le sujet qui est comblé par toute une série d'objets dont souvent il n'a pas besoin, il faut bien le dire. Même il ne veut pas. Mais parce que tout le monde en a à côté, ben il le veut aussi. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Et ça, c'est passer d'une dimension à l'autre, c'est pas toujours facile. C'est la fonction. Ça devrait être une des fonctions de l'éducation. J'ai fait beaucoup de philosophie d'éducation. Ça devrait être la fonction de l'éducation que de mettre les jeunes en position de créateur. Et donc de se mettre en position de méfiance par rapport à ce qui nous est proposé si gentiment. par le marché, qui va me bouffer complètement dans les objets que je vais être bouffé par les objets que je consomme, en fait. C'est moi qui consomme, et c'est les objets qui me bouffent. Bon, donc là, c'est une position différente que je devrais adopter. C'est-à-dire, gardez vos objets, vous êtes bien gentils, mais moi, ce que je veux, c'est autre chose. Je veux fabriquer quelque chose qui n'existe pas encore. Une proposition, une photo, une peinture, un poème, un chant, une chanson, une musique, quelque chose qui n'existe pas encore, dans lequel je vais pouvoir me reconnaître. Et la satisfaction, quand on réussit à se mettre dans cette position, est vraiment une satisfaction tout autre que celle de la consommation par l'objet, comme je l'ai dit, que vous consommez, mais qui vous consomme en même temps.
Bonsoir. Moi, je me posais la question, en fait, je reviens vers... alors, il y a plusieurs notions. La première, c'est les histoires de classe. La deuxième, c'est tout ce qui revient par rapport à l'aliénation. J'ai quand même le sentiment qu'il y a eu une aliénation généralisée depuis l'Antiquité, notamment avec l'esclavage et avec César, par exemple. Et depuis le début de notre vivant et la civilisation, j'ai quand même la sensation que on va devoir passer par une sorte de lutte des classes pour arriver à peut-être renverser la vapeur, si je puis dire. Et non pas que je suis pour les gilets jaunes, non, mais je me pose la question, est-ce qu'ils avaient raison finalement? Est-ce que on n'aurait pas besoin qu'une classe, ou du moins une minorité, remette en perspective les besoins de chacun pour arriver à un monde de partage et moins dans un enrichissement personnel qui tend vers l'égoïsme.
C'est une bonne idée, je suis d'accord avec vous, mais... Il y a un grand anthropologue qui s'appelle Marcel Mauss qui a travaillé beaucoup sur les socialités primaires et qui a remarqué quelque chose que dans les sociétés primaires, il fait hubris, comme vous disiez tout à l'heure, à juste titre, mais qu'à côté de cette hubris, il y a dans la société primaire des valeurs qui sont des valeurs de réciprocité. Et il a construit cette formule, donc, anthropologique, significative, donc ce rapport anthropologique. Mais en donner, l'autre reçoit, donner, recevoir, rendre. Ce n'est pas des objets qui sont donnés à la valeur marchande, parce qu'il y a quelque chose de l'autre, quelque chose de la personnalité, quelque chose du clan, quelque chose de la famille, quelque chose des esprits qui est donné quand c'est donné. Donc c'est reçu et c'est rendu. Et ça, c'est le fonctionnement de la réciprocité. Et il disait ça, c'est la formule symbolique du fonctionnement des sociétés. Mais il y a une formule diabolique. La formule diabolique, c'est l'inverse de cette formule. C'est de prendre, conserver, garder. Et là, manifestement, dans la promotion des vices privés, on est dans le prendre. Vas-y, prends à l'autre, parce que c'est bon. Il ne sait pas que ça sera bon pour lui, mais il verra que finalement c'est bon, même si je lui prends quelque chose, parce que ça va faire marcher le commerce et il va y gagner après. Donc voilà, lutte de classe peut-être, mais en tout cas, deux formules, soit échange symbolique dans la réciprocité, soit échange diabolique dans la prédation. Voilà, je vous remercie, on va peut-être en rester là.
Est-ce qu'on peut vous demander un petit coup de main pour empiler les chaises par 10 parce qu'on doit laisser la salle vide. Donc si vous pouvez nous donner un petit coup de main, après nous vous attendons dans la salle continue.